Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez l'épisode débrief du jour 1 du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Cyrus et je suis entouré d'une bonne partie de la team Proxy Jeux. Alors avec moi, il y a Linria qui assure la technique. Salut Linria.
Salut.
Il y a Astien. Salut Astien.
Salut.
Salut Fanduel.
Salut.
Il y a également Paul Gara.
Bonjour Cyrus.
Et Hammer.
Oui oui, bonjour Cyrus.
Bonjour à tous. Alors ce deuxième jour, qui est le vrai premier jour pour le public. Alors comment l'avez-vous vécu? Quelles sont vos impressions sur ce premier jour?
Il faisait chaud. Beaucoup plus de monde. C'est bien dommage.
Ouais. C'est vrai.
J'ai l'impression qu'il y avait effectivement beaucoup plus de monde. Et en particulier dans une partie du salon. En fait, la moitié, quand on regarde le plan, droite. Et de l'autre côté, vachement plus vite bide. C'est l'impression, je sais pas, je me l'explique absolument pas. Je sais pas, vous l'avez senti comme ça aussi ou pas?
Ouais, on s'est fait la même remarque avec Paul Gara en déambulant dans les allées. C'est exactement le coin que tu dis là. En allant vers chez Black Rock Games, tout ça. Vraiment, vraiment, déjà de la foule et des tables très, très remplies.
Ouais. Alors que l'autre côté, on est passé avec Beno et Fils côté Gigamic, par exemple. Et il y avait plein de tables libres. Hallucinant.
Oui, on avait pareil. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais. T'as des allées où tu circules difficilement. Et puis d'autres où ça n'a aucun souci. Tu trouves une table, tu t'attends 5 minutes et t'arrives à trouver une table. Mmh. Alors que nous, on a abandonné sur certains stands... l'idée d'attendre, enfin, on s'est dit, on allait faire un jeu qui s'appelle Attendre et on n'aurait rien à dire au débrief, sinon qu'on avait vachement bien attendu toute la journée.
Certainement lié à la durée des jeux aussi. Chez Gigamic, c'est des jeux plus courts en général, donc ça se libère plus vite.
Ouais, mais il y a moins de monde dans les allées aussi, toi. Enfin, c'est bizarre.
Hein. Ils ont un gros stand aussi, il faut dire.
Puis, enfin, c'est pas que Gigamic. C'était Funforge à côté, qui a des jeux plus gros. C'était Sweet November, c'était, enfin, voilà, tous ceux de ce côté-là. Hormis côté Pixie, c'était un petit peu plus rempli, ouais. Vraiment la petite zone qui est pas très loin de nous là.
Après il y a l'île au trésor et les jeux comme ça où ça attire du public quand même.
Bon, ça effectivement c'est nos impressions en tout cas générales sur le au niveau de. Alors moi ça m'a un peu fait marrer là ce matin, j'ai encore vu des tweets du style oui on a mis une demi-heure pour rentrer les professionnels, c'est inadmissible. Moi j'ai mis on a mis 5 minutes pour rentrer. Donc simplement c'est pas la première année que ça arrive. On sait que maintenant il y a une sécurité de malade, qu'on est fouillé, il faut vider son sac, tout, etc., etc. C'est sûr que les mecs, s'ils se pointent à 9h moins 5 pour faire la queue, pour rentrer et être à 9h sur leur stand, c'est sûr que ça marche pas, quoi. À 9h moins 10, c'est blindé, quoi. Ça joue à 10 minutes près, hein. On est arrivé à moins 20, je crois, ce matin, on est rentré en 5 minutes.
Bref, venez en avance, quoi, merde.
7h30 au taquet,
c'est hallucinant. Ouais, bon, peut-être pas quand même, mais bon. Mais bon, on retient que tu viendras demain mettre en place à 7h30.
Évidemment. Très bien. Comme tous les matins.
Donc voilà. Bon, ouais. Et je sais pas trop ce que ça a donné pour le public, en revanche. Mais il y avait l'air d'y avoir pas mal de monde.
Aux heures
de pointe, ouais, c'était assez blindé quand même. Et même en dehors, Clélie, par exemple, est rentrée plus tard. Il y avait quand même du monde, hein, parce que je suis passé devant la queue et. Ouais, c'est un festival qui disons plus bas. Je sais pas, on verra les chiffres un peu en fin de festival. On passe à la partie Last Door, puisque hier c'était la cérémonie. Alors allez, et je vais vous proposer un petit truc peut-être un peu rigolo ou pas, je sais pas. Comment vous définiriez cette cérémonie en un mot, chacun? Et alors vous n'avez pas le droit de répéter le mot d'un autre.
Okay. Interminable.
Protocolaire.
Astien, hésite. Linria, tu réfléchis pendant ce temps-là. Hein. Et il y a Fendoel qui n'a pas...
Mot.
Ah oui, Linria, toi, t'étais pas là.
Non, mais justement, ouais, mais c'est forcément que un mot ou pas.
Ouais, un mot.
J'ai fait de mon canapé, mais...
Un mot. On joue le jeu. Hein. Alors?
Canapé.
Ok, canapé, très bien. Ouais, pour être sympa, quand même, je vais te dire drôle. Quand même.
Oui.
Drôle, quand même. Et puis, Fendoel est parti, donc voilà, on n'aura pas son mot.
Je peux pas dire un mot, moi.
Alors, Linria, vas-y.
Je vais dire gif.
GIF.
Ah ouais. C'est comme ça que je l'ai vécu, ouais, okay, ouais. En fait.
GIF du format de fichier vidéo.
Bien sûr.
De fichier.
Ou Twitter, j'aurais pu dire Twitter aussi d'ailleurs.
Je pensais beaucoup à ça, mais je savais pas comment le résumer en un mot.
Bah, GIF, ça résume bien.
On l'a vécu de la même façon.
Elle t'a piqué. Très bien. Ouais. Ouais, c'était long. 2h30, ça a duré.
2h30.
L'année dernière, on s'était un peu plein des. Comment dire des slides horribles qui défilaient. C'était pas terrible. Et,
ouais.
Et bon, là, il n'y avait pas cet aspect-là. C'était un peu moins lourd de ce point de vue. Mais ouais. C'est vrai qu'on a eu un enchaînement en fait de choses qui n'allaient pas forcément tout ensemble. Et c'est un peu ça. Ouais. Enfin, on a l'impression qu'on a collé un peu. Donc une partie jeu au début qui était, je pense qu'elle a été mal mesurée au niveau du temps. Sinon, c'est pas possible. Oui, ça n'aurait jamais dû avoir lieu.
Pour expliquer, il y a eu un petit jeu en fait pour faire gagner des Twinits Special Can.
Voilà.
Donc en gros, une espèce de tombola quoi. Oui. Voilà, il fallait repérer son siège.
Alors on donnait des numéros. Enfin, Monsieur Fallet Marcus se donnait des numéros de siège. Et puis du coup, les hôtesses devaient courir dans les allées avec des escaliers.
Avec un quiproquo parce qu'il y avait une double numérotation.
Ouais,
voilà.
Donc
étages,
en fait, ça a été très très long, très pénible, laborieux. C'était pas forcément très drôle. Je pense que voilà, ils auraient dû couper. Enfin, ça n'aurait jamais dû. Ils auraient dû le tester avant de le faire.
Bah, c'est un jeu, ça se teste.
Mais oui, parce que s'ils avaient mis.
C'est un grandeur nature, finalement.
Ouais, oui.
Non, mais c'était une simple tombola, quoi, en gros. Mais le problème, c'est que, il y avait une organisation autour de ça. Le principe, c'est sympa. Faire gagner un jeu, voilà. Puis il y avait un petit jeu dans le jeu. Il fallait deviner, ils montraient des images du Twinit en question. Et tu allais deviner quel était le jeu qui était représenté par cette image. Donc voilà, oui, ok. Bon, dans l'assistance, forcément, les gens, ils savent. Puis souvent, ils sont aidés par leurs voisins. Mais voilà, ça rajoute un peu du temps et tout. Ça a dû durer une demi-heure, l'air de rien, quoi.
Ah, ça a duré, moi j'ai minuté, hein, ça a duré 35 minutes.
Ok, respect.
Donc, c'était une image qui était passée quelques jours avant sur Internet. Moi, je l'avais vue et je m'étais amusé à le faire directement sur le net. Donc, on pouvait peut-être tricher aussi vu les images avant.
Bon, d'accord. En tout cas, c'est sûr que vu que par ailleurs, après, on est passé à une phase qui était incontournable et tout à fait normale, qui était aussi rendre hommage à Nadine Seul.
Voilà, ouais.
Il aurait mieux fallu faire l'économie du jeu pour se concentrer là-dessus parce que voilà, on a perdu ils ont perdu beaucoup de temps là-dessus. Et après, bon, la série Mnemonie en elle-même est déjà extrêmement longue.
Bah oui, c'est ça, ouais. Donc, il y a effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu l'hommage à Nadine Seul, puisque c'était son départ, hein. C'était sa dernière année en tant que commissaire Donc, du coup,
normal.
Effectivement, mais, ça a rajouté des discours et des discours et des discours. Il y a eu le maire qui est passé, la remplaçante qui est passée, enfin, la successeuse. Bon. Je sais pas comment on dit. Bref.
Sachant qu'en vrai, la cérémonie en elle-même est déjà beaucoup trop longue.
Oui, voilà. Donc, et donc, ensuite, présentation de tous les jeux. Passage effectivement de tous les intervenants sur les jeux avec des discours et des merci dans tous les sens et là on se serait cru aux Oscars, enfin, mais c'était même pire que ça. Il y a eu des trucs, c'était scripté, c'était fin. Alors, il y a eu des trucs drôles, hein. Il y a eu des passages drôles.
Bien sûr.
Il y a eu du troll à mort. Là, j'ai halluciné parce qu'ils sont ce qu'ils avaient cette année, mais ils se sont vannés les uns les autres. Des fois, on sait pas à quel point c'est gentil troll, quoi.
C'était pas toujours qui aime bien châtier, je sais pas. Il y avait un peu plus de ça. Il y avait des petites piques.
C'était un peu grinçant, moi, de ce que j'ai vu sur Twitter. En tout cas, ça avait l'air. Je l'ai pas vécu en direct, donc je ne me prononcerai pas. Mais des phrases que j'ai vues, j'ai trouvé que c'était du troll un peu grinçant quand même. Hein.
Ouais. En particulier quand Matago est venu sur scène, donc ils avaient fait venir l'auteur, le chef de projet, je sais pas, etc. Et ensuite, il y a Sébastien Dujardin qui est monté avec. L'auteur l'exercice lui-même et Vincent Dutray, et là il a fait et nous on est venu avec l'illustrateur, nous, hein, n'est-ce pas Matago, et Vincent Dutray était dans la salle, il aurait pu monter aussi pour l'île au trésor qui est passé,
on pouvait
juste
le laisser même sur scène, en fait ça aurait été plus simple.
C'est ça.
Enfin, bref, voilà, bon, donc placé sous le signe du troll aussi, ouais, on aurait pu mettre ce mot là aussi, je propose qu'on passe effectivement au résultat. Donc le résultat, tout le monde les connaît, donc on va aller vite dessus. Mr Wolf pour le jeu enfant, qu'est-ce que vous en pensez rapidement?
Moi, clairement, c'était pas mon favori, donc je l'ai dit, hein, c'est un bon jeu, il y a aucun souci là-dessus. De toute façon, les 4 jeux étaient des bons jeux, mais après je pense qu'on le jeu enfant a des critères qui sont très qui sont très changeants selon les individus. On peut considérer que c'est vraiment du jeu pour enfants, et vraiment du domaine de l'enfant, que c'est du jeu qui doit être adapté à tous les enfants, qui doit être du jeu plus familial. Voilà, c'est un choix du jury. Le jeu est très bien. Moi, c'était pas mon favori.
C'est vrai qu'il fait classique, quoi. Enfin, je suis allé l'essayer, du coup, pour voir. Hein. Il fait assez classique. Bon, après, c'est très joliment présenté. Il y a une petite histoire, en fait, quelque part autour. Donc, ça participe à ça. C'est sûrement un des plus accessibles. Je me rappelle plus. Il y avait Kikafé, Zombie Kids. Et il y avait
le monstre des couleurs.
C'est le monstre des couleurs le plus accessible. Et qui est effectivement dans un domaine un peu bizarre, il y a une limite entre le jeu et la psychanalyse. Donc, Ouais, voilà. Non, mais je.
The Mind,
le Monstre des Couleurs, c'est un jeu qui a un faux concept fort, en fait. Ouais. Il y a aussi une histoire de création. C'est pas un jeu à la base.
C'est un livre. Ouais,
c'est
ça.
C'est un livre et une méthode pédagogique. C'est, voilà, décliné dans les écoles. Donc, c'est un peu, tu peux pas le juger sous cet angle-là uniquement.
Ouais, c'est ça. Mais enfin bref, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Bon bref.
Voilà. Bon.
Donc Mr. Wolf quoi. Ensuite catégorie expert, annonce de catégorie expert, donc c'est détective qui l'emporte. Face à Keyforge et
Spirit Island.
Spirit Island, merci. Détective, perso, moi je trouve ça assez légitime, même si j'aime beaucoup Keyforge, je suis pas surpris. Moi j'hésitais entre détective et Keyforge. Voilà, ça me surprend pas, semble être un bon jeu, les retours sont bons, je l'ai pas encore essayé, je l'ai à la maison, mais on verra.
Ouais. Pour ceux qui... Je pense qu'on s'y attendait un peu, on savait que Keyforge gagnerait pas, pour plein de raisons diverses et variées, enfin, peut-être avait un peu moins de chance que les autres, moi, Spirit Island, j'ai pas d'avis sur la question, mais
Spirit Island, le problème que je trouve, c'est que quand même, il y a un défaut d'édition, il y a des erreurs dans la règle, en français. Ouais. Et ça peut quand même poser problème, je trouve.
Keyforge, il y a même pas de règles.
Oui,
si tu
après,
veux.
Voilà, ça c'est autre chose. Enfin, il y a des règles juste pour jouer avec les deux decks de base, voilà, mais on est bien au courant.
C'est un point qui a été souligné aussi, c'est vrai.
Il peut avoir des erreurs de traduction aussi sur des cartes, sur Keyforge. Mais voilà, Spirit Island, l'édition qui est sortie, il y a vraiment des erreurs qui fait que sur le jeu, ben, on peut pas jouer avec les règles qu'il y a là. Il y a vraiment des erreurs sur les pouvoirs des personnages et ça peut quand même poser problème, je trouve, sur l'équilibrage du jeu.
Oui.
Mais bon, j'avais déjà mis une bille sur Détective depuis un moment et je suis bien content que ce soit lui qui soit nominé.
Moi, j'irais même un petit peu plus loin par rapport à ce que tu dis sur les règles. Je suis même étonné que un jeu qui a des vrais problèmes de règles soit allé jusqu'à la nomination.
Pour moi, c'est là que ça devrait s'arrêter, quoi, tu vois. Donc,
quand on les compare, moi je l'élimine directement avec ce problème-là, quoi.
Parce qu'à l'inverse, Détective, pour le coup, il a des règles complètement abordables pour un jeu expert. Hein. Enfin, après, c'est peut-être parce que je suis habituée aux jeux d'enquête, mais les règles est complètement lisible. En termes de mécanique, il est pas compliqué. Il est novateur, certes. Je pense que c'est ça aussi qui a fait peut-être la différence. Mais il est pas compliqué en termes de règles.
Je pense que Détective, c'est la durée aussi qu'ils font classer dans le mode campagne.
Faut avoir du temps.
Et la durée. Parce que tu peux pas classer un jeu, entre guillemets, familial dans une catégorie à plus de 3-4 heures de partie.
Complètement.
Du coup, ça l'exclut de toute façon. Et puis, ça l'exclut du monde des enfants. Détective, tu peux pas y jouer. Or, Lasdor, il doit quand même être jouable avec des enfants, des grands enfants, on va dire. Enfin, les 12 ans, à peu près. Tu vois, donc de fait, c'est aussi pour ça qu'il rentre dans, c'est pas tellement la complexité des règles qui va jouer. Mais moi, je sais que c'est pas pour jouer quand même souvent avec des enfants de 10 ans. La complexité d'un jeu, ce n'est pas forcément les règles, c'est pas le critère, c'est beaucoup la durée de jeu. Il y a une durée au-delà de laquelle un enfant ne peut pas tenir. Et tu peux lui expliquer, moi, c'est ce que je dis, mon fils, il peut jouer à Agricola en termes de règles, y a pas de souci. Un jeu de 3-4 heures, il pourra jamais le faire.
Ok. Enfin, bon, là, on parlait du coup effectivement du jeu expert. Moi, j'ai quand même un truc à dire. J'avoue, je suis pas allé vérifier, mais on m'a dit au niveau du stand de Lasdor, qui donc présente l'ensemble des jeux qui ont été sélectionnés, que la seule table du salon de Détective était effectivement à Lasdor. Enfin, c'est-à-dire que Yellow n'a fait aucune table de Détective. Tout ça, moi, je trouve ça intolérable.
J'étais sur leur stand tout à l'heure, j'en ai pas vu, effectivement. Ouais. Maintenant que tu le dis, il ne me semble pas avoir vu de table de Détective. Peut-être. Par contre, il y a une espèce d'escape game. Enfin, il y a un petit coin, en fait.
Oui, alors,
j'ai compris
que ça, il y avait un truc un peu.
Voilà, où on peut scanner un QR code pour faire une petite enquête sur le stand de Yellow. Ouais. Mais,
ça ressemble à Détective ou est-ce que c'est une espèce d'adaptation de Détective ou pas? Tu sais? Je sais pas.
Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est Bruno Catalou qui est décédé, donc on est vraiment terriblement triste pour lui, quoi.
J'ai cru que t'étais en train d'écorcher un nom, mais ok, d'accord.
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il est décédé.
Il est fatigué, c'est la fin de la journée, Catalou. Ça, c'est original.
Le pauvre, je vous l'aurais pas annoncé comme ça dans le débrief, je ne serais pas permise.
Non, mais bien compris que c'était genre qu'ils avaient pas bref.
Est-ce que le fait que le jeu soit pas présenté, c'est simplement parce qu'il manque d'une petite enquête de démo?
Ça s'organise. Regarde, à Lasdor, ils ont fait comment au stand de Lasdor, c'est un bénévole qui l'a fait, quoi. Il a ramené un tableau Velleda, il a fait des trucs façon mur des suspects, enfin Enfin bref.
D'accord.
Bah ne serait-ce que d'accord. faire au moins un ou deux tours pour comprendre la mécanique du jeu. On, en salon, d'ailleurs, on joue rarement une partie entière hein, quand oui, c'est des vrai. Jeux qui sont aussi longs. Donc,
non, mais c'est vrai pour que ça c'est que tous les Time Stories, et les Unlock, exactement. Les choses comme ça, ils ont des versions démo.
Ouais. Et c'est exactement à ça que je pensais.
Mais genre, en plus, ils le savent maintenant, je veux dire, tous ces jeux-là, on a un recul. Enfin bref. Du coup, on passe à The Mind. Ah, le Last Door.
Last Door.
Bah, j'ai spoilé personne.
Je croyais que c'était Last Door n'est pas The Mind.
Last Door, mais voilà.
Ceci
alors, Last
n'est
Door.
N'est pas une pipe. Ah,
ça, c'est ça. Ça, c'était quand même magique, hein.
Donc, le tweet de Oya. D'un seul coup, un tweet, alors, très tôt dans la soirée, genre à 20h30, hein, autant dire. Parce que ça finit à 22h. c'était très tôt dans la soirée. Qui annonce effectivement The Mind n'a pas gagné. Alors, les gens retweet. Est-ce que c'est moi je me suis dit est-ce que c'est un bluff, est-ce que c'est une espèce de troll. On n'a pas le frein mot de l'histoire.
Mauvaise
final,
manip.
Hein. Ouais, une mauvaise manip. Ils avaient programmé deux tweets, il y en a un qui est parti. On sait pas. Ça n'a pas été supprimé en tout cas, ça n'a pas été rattrapé dans l'intervalle. Et donc c'est quand même The Mind qui a gagné. Alors vos impressions?
Alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était un jeu qui était énormément plébiscité par les auteurs de jeux.
Ouais.
On a écouté la radio des jeux, la team qui est d'Ama, ils étaient tous assez dithyrambiques. Et Bruno Catala, quand on l'a reçu, on l'a reçu hier, c'est ce jeu-là qui est ressorti aussi.
Ouais.
Donc ça, je pense que c'est.
Ils ont reconnu le génie en fait du.
Je trouve que c'est un énorme critère en
leur
fait.
Leur homologue.
Donc parce que c'est des gens qui eux pensent, enfin font ça toute la journée de réfléchir à du. Donc c'est qu'ils l'ont trouvé si bluffant, c'est qu'il y a vraiment quelque. Enfin tu vois après il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Je sais que c'est un jeu clivant. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, donc j'ai aucun souci sur sa victoire. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que beaucoup d'auteurs le plébiscitent.
Je pense que c'est tellement épuré, c'est tellement il y a rien dans le jeu, toi. C'est que ça bluffe les auteurs de se dire putain merde, le mec il a fait ça, il a pondu ça, il l'a vendu, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Et enfin, je veux dire en termes d'éditeur, et ça se vend comme des petits pains. C'est un génie, quoi. C'est vraiment, à mon avis, c'est pour les auteurs, c'est un génie. Après, je pense pas que ce soit pour ça que il gagne au niveau du jury, parce que dans le jury, il y a pas d'auteur. Mais il y a des gens qui ont une appétence au game design.
The Mind, pour moi, c'est une expérience ludique, comme Unlock qui a gagné il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. À l'époque, c'était une expérience ludique. C'est une nouveauté, c'est une autre façon de jouer. Alors, certes, c'est pas non plus complexe, hein. Le concept est pareil et original. C'est peut-être quelque chose de simple, certes, mais auquel on n'avait pas encore pensé et qui, pour moi, se vit, quoi, finalement. Donc, c'est peut-être ça qui lui a valu son prix. Par rapport aux autres qui étaient sélectionnés, non pas que les autres d'ailleurs étaient pas c'est pas du tout des mauvais jeux, loin de là, hein, mais peut-être moins originaux pour le coup sur le concept.
Alors moi je vais prendre le contre-pied, me faire un peu l'avocat du diable, même si The Mind c'est un jeu que j'ai apprécié et que j'apprécie toujours. Je ne sais pas si le jury de Last Door essaie à travers la récompense de promouvoir le jeu de société auprès d'un public qui ne le connaît pas. Mais moi, j'ai l'impression que The Mind, c'est surtout un jeu pour les gens qui connaissent déjà le jeu. Plutôt que un jeu, le jeu de société, je veux dire. Qu'un jeu, ça va être le premier jeu que tu fais jouer à des non-joueurs. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne introduction. Même si je reconnais qu'il y a vraiment un effet waouh quand ça marche. À base de finalement rien du tout, à base d'une centaine de cartes.
Ouais. Après, faut vraiment que les gens autour de la table, ils soient vraiment dans le même délire pour y avoir joué avec des gens qui n'étaient pas du tout connectés. Ça fonctionne pas du tout, vraiment.
C'est
soit ça passe, soit ça passe pas. Et après, nous, je sais qu'à la maison, par exemple, il ressortira jamais pour cette raison-là, quoi.
Bah, je pense qu'il a quand même, pour répondre à Hammer, je pense qu'il a quand même largement dépassé le cercle des joueurs que tu décris, en fait. Au niveau des ventes, de ce qu'on entend, il a été top one des ventes recensées par Rexou là.
Oui.
Pendant plusieurs mois, et donc je pense qu'il a largement dépassé déjà le cercle de ces joueurs pas confirmés, mais on va dire réguliers. Bon. Allez, voilà. Bref, ils ont gagné, bravo à eux.
Bravo à Wolfgang Warsch quand même, parce que il fait quand même un carton, quoi. C'est incroyable. Enfin, cet auteur est incroyable. Enfin, on le connaît. Est-ce qu'on en avait entendu parler il y a 2 ans?
Non, Non.
Et là, il arrive avec.
Là, il faut quand même saluer. Enfin, c'est, il est extraordinaire. En plus, il fait de la biologie moléculaire, non? Mais tu.
c'est un mec qui te fait te rendre tout petit. Hein.
Ouais, tu sens vraiment. Tu te dis, mais moi, j'ai ma vie, c'est de la merde, à côté.
Faut pas dire ça.
Allez, on passe à la dernière partie de ce débrief, les jeux d'aujourd'hui. Alors, il y a certains d'entre vous voulaient parler de Gizmos. Donc, c'est un jeu de Phil Walker Harding. Qui est édité chez Simon.
Oui, absolument. Phil Walker Harding, qui est pas un inconnu. Hein. Il a déjà pondu Cacao, Baron Park, Imhotep. Alors Gizmos, c'est un jeu avec des cartes qu'on va récolter au milieu de la table depuis trois rivières. Et puis ces cartes vont se combiner les unes avec les autres. Il y a un distributeur de billes donc qui permet de piocher des billes qui vont permettre d'acheter des cartes, etc. C'est un jeu à moteur avec des cartes à combo que moi j'ai trouvé très très agréable. C'est exactement la sensation de jeu à laquelle je m'attendais. C'est rapide, c'est vraiment un jeu que c'est très très fluide. Les tours de chacun sont ultra rapides. Et puis on a ce petit plaisir d'essayer de trouver les cartes qui se combinent les unes aux autres et qui font des effets de plus en plus de plus en plus grands avec des effets de réaction en chaîne. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa. C'est vraiment mon style de jeu en ce qui me concerne.
Bah tout à fait la même chose. Oui, mon style de jeu à 100%. Les jeux à moteur de points comme ça, c'est ma cam. Et le petit côté les ressources avec des billes. Je trouve ça assez original, ça change d'avoir des cubes en bois, d'avoir des jetons en carton. Et il y a vraiment un jeu en plus avec ce distributeur de billes qui vont arriver les unes derrière les autres, ou sinon on peut aller fouiller carrément dans la boîte où il y a toutes les billes pour aller choper, essayer de tenter de choper la bille qui nous plaît. C'est vraiment sympa.
Alors des fois tu pioches au hasard dans ça.
Oui. Voilà. Ouais, ouais. Okay. Et on se retrouve souvent à faire juste une seule action, et en fait il y a tellement d'enchaînements de combos qu'on se retrouve à piocher mais des dizaines de billes, à poser une deuxième carte au même tour. Vraiment c'est très très sympa, j'adore ce genre de moteur de toute façon.
Et vous pensez qu'au bout d'un certain nombre de parties on arrive quand même parce que j'imagine qu'on n'arrive pas à suivre trop le jeu des autres sur les premières parties.
Ça arrive quand même un peu.
C'est assez lisible quand même.
Oui, d'accord.
Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est justement le côté où c'est pas vraiment interactif. La seule interaction qu'on va avoir, ça va être d'aller piquer une bille à l'autre sur le distributeur de billes, ou d'aller prendre la carte que l'autre personne convoite. Mais il n'y a pas d'interaction directe entre les joueurs après dans le jeu.
Ça peut parfois suffire, ça dépend du.
C'est une interaction à la Splendor. Hein. Faut vraiment pas s'attendre à plus. Ouais. Et tu peux très bien faire ta partie en ayant le nez sur ton plateau et sans faire attention aux autres. Tu vas tout à fait. T'amuser autant et faut vraiment pas le chercher pour ça. Si t'es amateur de Splendor, je vous invite vraiment à l'essayer, ça c'est sûr.
Bah écoute, moi je trouve que le niveau d'interaction par exemple dans Splendor est suffisant. Tu vois, c'est comme dans Race for the Galaxy, à partir du moment où tu joues déjà même sans les objectifs.
C'est plus fort dans Race for the Galaxy, le fait de sélectionner les phases, le fait de faire du guessing de phases justement de pas choisir la phase pour tu sais que l'autre va le faire, etc. C'est plus fort.
OK. Très bien, donc ça c'était Gizmos, donc chez Combiné or Not de Phil Walker Harding. Ensuite, Stay Cool, qui voulait nous en parler?
Nous on y a joué, donc c'est Scorpion Masqué qui le sort, c'est un jeu de Julien Santis qui est fait Déclic. Donc c'est un jeu où dans lequel en fait on va devoir écrire des mots avec des dés. Donc on a des dés qui représentent à peu près toutes les lettres de l'alphabet. Alors on a 5-6 dés. Donc à peu près, on a 2 dés pour les voyelles et 2 blancs et puis 4 dés de couleur pour les consonnes. Mmh. Et puis on doit écrire des mots et en même temps un autre joueur. Donc on a un joueur qui va lire les mots qu'on doit écrire en nous posant des questions. Donc on doit trouver la réponse et l'écrire. Et un autre joueur va nous poser des questions auxquelles on doit répondre à l'oral. Et après on a un sablier qui tourne. Donc en fait l'idée, c'est le concept du jeu, c'est l'auteur nous a expliqué, c'est sa femme lui a dit les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois. Donc nous allons, le jeu c'est on doit faire plusieurs choses à la fois.
Ouais, c'est le jeu, il faut être multitâche non. Ça, en gros, il faut faire 2 trucs en même temps.
Voilà.
Ouais. Et c'est. On retrouve la patte de Julien Santis, hein, parce que déjà des clics, il y a un petit
côté. C'est vrai faux en fait. On doit, selon les affirmations, taper avec la bonne main et c'est.
Une espèce de confusion.
Oui, c'est à dire qu'on doit dissocier un peu des parties, enfin les zones de notre cerveau, je pense, entre les gestes là. Ouais. Et c'est super cool quoi. Enfin vraiment. Alors c'est un jeu.
C'était cool.
C'est ultra cool. Tu restes pas cool parce qu'à un moment tu dis mais arrête maintenant, ça suffit, tu me harcèles.
D'accord.
Quand t'as des enfants, c'est un jeu auquel tu joues en fait un peu toute la journée quelque part.
J'ai vraiment trouvé ça très sympa. C'est relativement rapide. Le tour de chaque joueur joue se joue en deux minutes puisqu'on a un sablier qu'on retourne quatre fois. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant le tour des autres, bah déjà si on peut avoir le rôle de poser les questions, donc on est soi-même actif, et puis voir le joueur actif se débattre avec les multiples questions qui l'assaillent. Rien que ça, c'est vraiment très très drôle. Mmh. C'est vraiment un jeu d'ambiance que j'ai trouvé très sympa. Le scoring, c'est assez simple. Voilà, au bout des deux minutes, on regarde à combien de questions t'as répondu sur la carte des questions orales et sur la carte des questions écrites. T'as un chiffre en face de chaque, tu multiplies et t'as ton nombre de points.
D'accord,
et on fait trois manches comme ça. Les manches se complexifient avec l'histoire du sablier. Mmh. Au début, il y a quelqu'un qui le retourne pour toi, et puis après, c'est toi qui va devoir dire quand est-ce qu'il faut retourner.
Tu rajoutes des tâches. Quoi.
Exactement. Okay. Voilà. Et on fait trois manches comme ça.
Ok, bien. Bah écoutez, vous nous avez donné un bon aperçu, et moi, ça me donne encore plus envie d'aller l'essayer.
Moi, je pirate la ligne parce que durant ma partie de Stay Cool, j'ai trouvé une carte sneaky card dedans.
Sneaky card,
c'est un jeu que tu trouves chez Cocktail Game. Tu achètes le paquet. En fait, le but du jeu, c'est de donner ces cartes à des gens. En fait, sur chaque carte, il y a marqué des conditions. Sur ma carte, il y avait marqué donner cette glisser cette carte dans un jeu de cartes et la personne qui le trouve l'a trouvé, voilà. Mmh. Et tout simplement, vous téléchargez une application sur votre téléphone, vous rentrez le numéro de la carte, il y a un petit numéro en bas à droite, vous rentrez le numéro de la carte, vous scannez votre carte, d'ailleurs c'est assez impressionnant, vous scannez l'intégralité de la carte qui est comme une espèce d'immense QR code de la taille de la carte, et il va tracer l'emplacement où a été trouvée la carte. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre des cartes au travers le monde. Alors ensuite, là, c'est un truc un peu bateau de glisser une carte dans un jeu de cartes, mais on peut avoir aussi des choses plutôt positives. Par exemple, vous voyez quelqu'un faire une bonne action, par exemple, vous tenir la porte ou ce genre de choses, vous pouvez lui donner une carte. Vous voyez, il y a plein d'autres petites épreuves, mini-épreuves, et l'idée, c'est de glisser des cartes et de faire se répandre les cartes au travers le monde et de les suivre après. Peut-être qu'elles... Il y aura rien, peut-être qu'il y aura des choses. Moi, j'ai scanné mes cartes et j'en ai déjà transmise deux parce que j'en ai trouvé d'autres après. Donc
est-ce
voilà.
Est-ce que tu peux voir où elle a été précédemment? Enfin,
tu peux voir. C'est des cartes qui ont été générées pour Cannes, donc je sais pas si tu peux vraiment encore. Mais voilà.
Mais par exemple, celui qui va la recevoir dans deux semaines, il va savoir, elle est arrivée à ce moment-là,
elle a fait ça, quoi.
Je crois qu'il y avait ça derrière comme idée, ouais. Bah, alors, Mathieu Despneaux, pardon, on en avait parlé il y a deux ans, je crois. On l'avait interviewé il y a deux ans, il était sur le coup,
Mais donc, oui, ça se réalise que maintenant, voilà. Mais il y a un niveau technique, faut faire un site web, faut pouvoir gérer tout ça, donc il y a plus qu'un
côté US, mais bon, il a fallu l'adapter, j'imagine, enfin bref.
C'est hyper malin, en tout cas, je trouve ça vraiment
c'est super.
Très bonne idée.
C'est sympa. En tout cas, c'est sûr que ça plaira dans la sphère ludique, ensuite que ça s'étende au-delà, peut-être.
C'est une espèce de jeu vivant, hein, c'est cool.
C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est finalement pas un jeu de société à l'échelle globale.
Okay. Maintenant que tu nous as piraté avec Sneaky Card,
on a inventé le Morpeg, mais Morpeg, mais le Mort Board Game, tu vois, le multiplayer online jeu de société. C'est un peu.
Okay. De mon côté, je vais vous parler de Greenville. Donc Greenville, c'est un jeu chez Soulwear French. C'est un jeu de Florian Fay. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui l'ont essayé?
Non,
nous on l'a expliqué.
Mon mari
juste.
L'a essayé hier, il a beaucoup aimé.
Ouais, alors, c'est un jeu qui est dans la veine des Dixit, Mysterium, peut-être un peu plus proche de Mysterium. En fait, mais dans un univers hyper, horrifique en fait. En tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé. Inspiré visiblement de films de différents continents, des films asiatiques, des films US, des films européens. Des années 60, 70, 80. Il y a pas mal de références au niveau des illustrations. Donc c'est un jeu qui est basé sur des illustrations. Hein. C'est un jeu de communication avec coopératif, communication. Le principe, en fait, c'est que chacun va recevoir une carte qui indique le lieu dans lequel on se trouve au départ. on a été transporté dans une sorte d'univers parallèle qui est vraiment chelou, quoi. Et on va décrire la situation dans laquelle on se trouve et ce qu'on veut faire pour s'en sortir, en gros. Et voilà, tout le monde fait ça autour de la table. Et ensuite, il y a un joueur qui est une sorte de meneur de jeu, qui va étaler autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table, plus une, et qui va placer les différentes personnes dans les nouveaux lieux. Et ensuite, les autres joueurs, enfin, il va le faire de façon cachée, et les autres joueurs vont devoir ensemble tenter de deviner dans quel endroit les a emmenés le meneur. Et s'ils trouvent, bah, ils vont effectivement aller dans cet endroit-là. Il va falloir parcourir comme ça trois nouveaux endroits, que chaque joueur parcourt trois nouveaux endroits pour réussir à gagner. Et si on trouve pas, en fait, on avance sur une piste qui nous emmène définitivement dans ce monde parallèle et dont on ne pourra plus sortir. Donc c'est vraiment orienté narration. En fait, on va se raconter une petite histoire pour expliquer dans quel lieu on se trouve et puis ce qu'on veut faire. Et en même temps communication, voilà. Alors il a dit qu'il voulait utiliser un véhicule pour partir. Bah, sur cette carte il y a une voiture, sur cette carte il y a un vélo. Alors qu'est-ce qu'il va plutôt prendre, etc. Des choses comme ça. Ça amène pas mal de discussions. C'est assez rigolo. On peut se raconter des histoires qui sont effectivement horrifiques. Ou alors ça peut tourner à des trucs plutôt drôles, quoi. Là ça dépend vraiment des joueurs autour de la table. Pour effectivement comparé à Mysterium, c'est vraiment plus adulte. Je crois qu'ils ont mis interdit moins de 16 ans, comme ça, sur la boîte.
Si c'est un peu glauque, ça s'explique en même
temps. Ouais, voilà. Non, mais voilà, ouais, ça justifie.
Hein. Franchement, nous on a c'est vu la glauque, carte, non.
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 Non, mais c'est pas. C'est pas glauque. Je veux dire, il y a pas des gens qui ont des têtes coupées, des machins comme ça. Mais en fait, c'est juste l'atmosphère qui est dégagée.
Ouais, une atmosphère de malaise plus que.
C'est ça. Et du coup, bah oui, ça s'adresse effectivement quand même plutôt à un public adulte. C'est plutôt à jouer entre amis. Moi, je sais que ce genre de jeu, j'aime beaucoup de jouer en famille, en particulier avec ma belle famille. Et là, bah non, mais voilà. Mais en fait, il y a Paul Garrett qui rigole
avec
à côté.
Avec ma fille qui a
au repas de Noël, on adore jouer à des jeux horrifiques avec ma voilà. avec et ma belle famille.
Et bah j'ai vraiment adoré le jeu. C'est vraiment un coup de cœur de la journée. Mais je pense que je l'achèterai pas parce que j'aurais pas l'occasion d'y jouer en fait. Parce que bon bah à deux ça joue pas, enfin ça a pas trop d'intérêt. Soit je vais genre tirer un jeu un peu plus costaud, soit ce genre de jeu, ce style de jeu, bah je le joue plutôt en famille. Donc du coup voilà. Donc mais je le conseille vraiment vivement si vous avez l'occasion de jouer entre amis à ce genre de truc, bah ouais franchement c'est un chouette jeu. Et la recherche graphique et tout, ça c'est ouais, c'est chouette, c'est magnifique. C'est...
Visuellement, ce que nous on a vu, on nous a présenté le jeu juste avec Hammer, on a vu les cartes parce que justement moi c'est le moins de 16 aussi qui m'a un peu interpellé comme on dit. Et du coup, oui, les cartes sont très très bien réalisées. Hein. Il y a vraiment une recherche d'ambiance. Il y a beaucoup de clins d'œil en plus dans les cartes. Il y a des petites références à beaucoup de, enfin, une référence à Shining, notamment. On a vu.
Ouais, j'en ai vu une autre à Ghostbusters juste en parcourant un peu le paquet de cartes. Il y en a sûrement d'autres.
Je recherchais le nom de l'illustrateur. C'est un peu dommage. J'aurais dû le noter avant parce que c'est vrai que. Il a fait un boulot de dingue. Sur Warframe, je nous expliquais qu'il y avait eu 6 mois de boulot en recherche et puis ensuite 5 mois juste en illustration. Quoi. C'est David Sidbon, je ne sais pas comment on prononce. Merci Hammer pour la recherche. Voilà, ma petite reco. Alors on va faire un tout dernier parce qu'on est en train de se faire jeter du salon. Peut-être Linria, tu nous parles de l'extension de Bunny Kingdom?
Ah oui, ça va aller assez rapide. Je vais pas réexpliquer le principe du jeu. Je pense qu'il a quand même déjà bien tourné. On incarne une armée de lapins. On doit envahir un peu le nouveau monde. Celui qui fait le plus grand nombre de fiefs, il gagne plein de carottes dorées. C'est celui qui a le plus de carottes dorées qui gagne la partie.
Et c'est sûr que ça fait plaisir des carottes dorées.
Mais complètement. C'est un jeu de draft. De pose de lapin.
De Richard
peut-être demander
Garfield.
À Cariatre si c'est de la pose d'ouvrier, on ne sait pas. De Richard Garfield, oui, auteur de Magic, entre autres. Quand même important. Cette extension, elle apporte un nouveau petit plateau qui se passe en fait dans le ciel, le plateau Le Grand Nuage. Elle apporte le matériel pour pouvoir jouer à 5 et c'est une armée de lapins violets. Donc moi, rien que ça, je suis ravie.
Ah,
voilà.
Okay, très bien.
On a aussi des nouveaux... Donc forcément des nouvelles cases à remplir, on a des nouvelles ressources, les ressources merveilleuses, mais cette fois-ci qui sont en fait intégrées au ciel, donc on peut pas les placer où on veut. Avant, on pouvait prendre les ressources, les mettre un peu où on voulait, sur le plateau. Là, elles sont intégrées au ciel, donc c'est à nous d'essayer de relier, en fait, les cases du ciel aux cases de la Terre. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des licornes, il y a des étoiles, il y a plein de petits trucs super mignons.
C'est des trucs choupis, quoi.
En termes de gameplay, ça change pas des masses, hein. C'est toujours le principe du draft. On prend une case, on pose son lapin, on récupère des ressources. On a l'arrivée de ce qu'ils appellent les carottes Adèle. Ce sont des palais carottes qui ont 5 carottes et qui donc marquent 5 points. Et en fait, on peut pas aller au-delà, par contre. On peut pas les mettre dans un fief où il y a, enfin, s'il y a déjà, en tout cas, des tours carottes dans ce fief-là, elles compteront pas plus. Ce sera 5 maximum. Mais c'est quand même toujours bien de multiplier par 5 son nombre de ressources. Ça fait quand même pas mal de points.
C'est rigolo, c'est assez surréaliste à expliquer, en fait.
Complètement. C'est incompréhensible. Ceux qui n'ont jamais joué, je pense qu'ils n'ont rien compris. Mais bon. On parle de lapins dans le ciel avec des arcs-en-ciel, des licornes.
Des substances étranges.
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai joué à un jeu où j'étais dealer de drogue avant. Peut-être que c'était ça.
C'était la suite, en fait.
Il doit y avoir un lien.
C'était en mode campagne, en fait. Hein.
Il doit y avoir un lien. Non, mais bon, très sympa, mais ça apporte pas non plus des masses de choses en termes de gameplay. Par contre, c'est très sympa de pouvoir y jouer à 5. Ça ramène de l'interaction. Et ça fait que le plateau, il est encore plus rempli.
Ouais. Bon, bah, on va s'arrêter là. On va juste, peut-être, des fois qu'on n'en parle pas, donner les quelques recommandations qu'on avait d'autres. Moi, j'ai joué à Farben, qui m'a beaucoup plu, qui est un jeu d'Apolline Jove chez Acting Game. Ensuite, il y avait RS Arcana, de Tom Lehman. Fendwall, peut-être juste un rapide mot. Qu'est-ce qu'il voulait parler à la base? Juste en deux mots.
En deux mots, gros jeu, plus lourd que du Race for the Galaxy. Assez
pas
bluffant.
Le même style, hein, d'ailleurs, quand même, hein. Pas le même style.
Bah, il y a des cartes. Tu choisis aussi un petit peu comme des rôles. Mais c'est juste des rôles qui vont pas être dispo pour les autres. Une question de tempo.
Ouais, c'est un défi que tu prends.
Tu as 8 cartes en main que tu vas piocher tu vas piocher une carte à chaque tour. T'as 8 cartes au total en main. Et tu vas réussir à faire des combos avec ces 8 cartes, finalement, quelles que soient les cartes. Donc ça, c'est
vraiment
assez
un effet
impressionnant
qui s'emballe. Hein,
long à démarrer, ouais. J'ai trouvé que c'était
long
à démarrer.
Oui, y a un
visiblement, on a fait une partie un peu bizarroïde quand même.
Moi, j'ai mis tous mes points sur le dernier tour. Chacun a sa stratégie, mais bon.
Il y a une courbe d'apprentissage qui est, enfin, il y a de la profondeur. Ça, c'est probablement sûr. Faut y revenir certainement avec une deuxième partie. Perso, je préfère. Je donne pas particulièrement d'avis.
Moi, je voudrais une deuxième partie aussi.
Oui,
Astien, tu voulais Narabi, donc pareil en deux mots.
Voilà, Narabi, un petit jeu très simpliste où on va avoir des cartes avec des numéros et on les aura dans le désordre devant nous. Et en fait, ces cartes sont toutes slivées. On va glisser une seconde carte avec un pouvoir à l'arrière. Donc, ça va permettre de renouveler vraiment les parties en changeant les pouvoirs de cartes numérotées. Et notre but va être en coopérative, d'échanger les cartes pour les remettre dans l'ordre.
D'accord.
Au niveau, tout autour de la table.
Ok. Très bien. Donc, ça, c'est un jeu de Daniel Fair.
Chez Lifestyle Board Game.
Ouais. Et on n'a pas dit aussi pour RS Arcana, c'est un jeu chez Sandcastle Game. Ça doit être le premier jeu d'ailleurs, il me semble. Écoutez, c'est la fin de ce débrief, puisqu'on va se faire mettre à la porte. Chères auditrices, chers auditeurs, si ce petit débrief vous a plu, partagez-le et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite, donc demain, pour le prochain débrief, le jour 2. J'espère que tout le monde est encore en forme.
Non.
Non.
Oui.
Si. Encore envie de jouer.
Allez, on vous dit à bientôt et puis surtout,
jouez bien.